Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu parce que tu viens au milieu de nous, que tu veux nous prendre tous contre ton cœur, nous donner ton amour. Tu veux purifier notre cœur par ton amour. Tu veux nous libérer de nos angoisses, de nos peurs, de nos doutes, de nos enfermements, de nos blessures, de tout ce qui nous empêche de t'accueillir pleinement, comme ressuscité au milieu de nous. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, à partir du verset 9. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes. Et ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait et qu'elle avait vu Jésus, ne la crurent pas. Après cela, Jésus se manifesta sous d'autres traits à deux d'entre eux qui étaient en chemin et s'en allaient à la campagne. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, mais on ne les crut pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Alors, ce texte de l'Évangile de Marc est un résumé des différentes apparitions de Jésus, dont nous avons un écho parfois plus large dans les autres évangiles. Mais Marc insiste particulièrement dans ce résumé sur le fait que ceux qui entendent des témoins qui ont vu le Christ ressuscité, donc les disciples et les apôtres qui entendent ces témoins, ne les croient pas. C'est d'abord Marie-Madeleine, Marie de Magdala, qui était très attachée à Jésus parce que Jésus l'avait libéré de la possession de 7 démons. Donc pendant longtemps dans sa vie, elle a été possédée, Marie-Madeleine. Jésus l'a libérée et elle a découvert vraiment en lui son Dieu et son maître, son libérateur. Et elle s'est attachée au pas du Christ, devenant son disciple et ayant pour lui un amour fou. Marie-Madeleine qui ira oindre Jésus au tombeau, mais ne le trouvant pas, le tombeau étant ouvert, eh bien, elle ne trouve le tombeau vide et Jésus lui apparaît, nous dit Marc. Et on ne sait pas, dans l'évangile de Marc, ce que Jésus dit à Marie-Madeleine. Marc dit simplement que Jésus est apparu à Marie-Madeleine et que celle-ci va le dire immédiatement aux compagnons de Jésus, à tous ceux qui ont été avec Jésus durant son chemin terrestre et qui, eux, sont encore en train de pleurer cette souffrance extrême de savoir que leur Seigneur a été crucifié et qui imaginent que leur Seigneur est dans le tombeau. Et quand ils entendent Marie-Madeleine témoigner, Marie-Madeleine est la première à témoigner de la résurrection, c'est pour ça qu'on l'appelle même l'apôtre des apôtres. Vous avez les 11 apôtres, et Marie-Madeleine, cette femme, est l'apôtre des apôtres, c'est elle qui va évangéliser les apôtres. Donc, quand elle va évangéliser les apôtres, et l'Église lui donnera donc ce titre d'apôtre des apôtres, eh bien, les apôtres et les disciples ne la croient pas. Ils pensent peut-être que cette femme aime tellement Jésus qu'elle hallucine, que ses hallucinations l'ont conduit à voir Jésus ressuscité. Elle veut tellement qu'il soit vivant que peut-être qu'elle a halluciné qu'il était encore vivant. Et donc, ils prennent ça pour des boniments de bonne femme, si j'ose dire, et ils ne croient pas Marie-Madeleine. Peut-être même qu'ils la prennent pour une folle. Ensuite, Marc nous parle de deux personnes qui ont rencontré Jésus en chemin, qui s'en allaient à la campagne. Dans l'évangile de Luc, nous avons plus de précision sur cette rencontre. Nous savons que Jésus a marché avec eux, qu'il leur a interprété les Écritures, après leur avoir laissé dire leurs souffrances. Et puis, il s'est laissé reconnaître, quand il a béni le pain, quand ils sont arrivés le soir à destination, à Emmaüs, il a béni le pain, et à la bénédiction, quand Jésus a béni et rompu le pain, eh bien, ils l'ont reconnu. Là, on dit simplement que Jésus s'est manifesté à deux personnes qui allaient à la campagne. Et quand cela revient aussi vers les autres, vers les disciples, vers les 11, c'est pareil, on ne les croit pas. hallucinant, c'est qu'il y a deux témoignages d'affilée, et à chaque fois, les apôtres ne les croient pas. Alors, quand on regarde l'évangile de Luc, Luc nous donne une version différente. Luc nous dit au contraire, si vous allez voir, que quand ils arrivent pour raconter qu'ils ont vu Jésus, eh bien, on les croit. Alors, Marc nous dit qu'on ne les croit pas, et Luc dit qu'on les croit. Alors, comment ça se fait, cette différence ? Il y a une explication assez simple. C'est qu'ensuite, quand on va voir l'évangile de Luc, quand il continue son récit, Jésus apparaît à ses apôtres. Et là, ils le prennent pour un fantôme. Donc finalement, Luc nous dit que les apôtres ont cru les témoins d'Emmaüs, mais ensuite, quand Jésus apparaît, ils croient que c'est un fantôme. Donc ça veut dire qu'en réalité, leur foi à la résurrection est faible. Elle est pauvre. Donc Marc nous fait un résumé en disant qu'ils ne croient pas. En fait, ils ont commencé à croire un peu, mais quand Jésus le voit, à nouveau, ils doutent, ils pensent que c'est un fantôme. Il faut qu'ils touchent Jésus pour être convaincus que ce n'est pas un fantôme, mais c'est vraiment une personne en chair et en os. Et Jésus leur demande de le toucher, parce que vous savez que le toucher, c'est le sens sur lequel on se trompe le moins. Le sens le plus évident, c'est le sens du toucher. La vue pouvait avoir une hallucination, l'odorat pouvait vaguement sentir que le truc, l'audition peut avoir une audition erronée, mais le toucher, c'est le sens le plus fort pour avoir l'évidence de l'existence de quelque chose. Donc Jésus leur demande de les toucher, de le toucher, et mange même avec eux pour les convaincre qu'il est ressuscité. Marc veut nous dire par là que pour les apôtres, pour les 11 apôtres, puisque Judas n'est plus là, pour les disciples, ça a été très dur d'accueillir ce message de la résurrection. Et le fait qu'ils le disent est un signe d'authenticité des évangiles. Parce que si les évangiles avaient été écrits simplement pour se faire plaisir, ils auraient dit que les apôtres, c'est des superstars, qu'ils ont cru tout de suite, qu'ils sont géniaux, parce que c'est eux qui ont écrit les évangiles. Et puis voilà, l'Église, c'est composé que des gens géniaux. Eh ben non, dans les évangiles, on nous raconte que l'Église est composée de gens qui ont du mal à croire, ce qui est un signe d'authenticité de ce texte. D'ailleurs, quand vous allez voir les évangiles apocryphes, ces évangiles qui ont été écrits plus tard, où on croit trouver des secrets qu'il n'y a pas dans les quatre évangiles, mais qui en fait datent des siècles ultérieurs, là, au contraire, vous avez des choses extraordinaires. Or, ces quatre évangiles que l'Église reconnaît, non. Là, les apôtres ne sont pas épargnés. On nous dit qu'ils n'ont pas cru. Voilà. Ce qui est assez étonnant. Ils n'ont tellement pas cru que quand Jésus leur apparaît, eh bien, ils leur reprochent leur manque de foi. Autrement dit, ces 11 que Jésus a choisis pour fonder son Église, ils sont incapables de croire des témoins qui leur parlent qu'ils ont vu le ressuscité. Alors, est-ce que Jésus s'est trompé dans son choix sur les 11 apôtres? Ils auraient dû prendre 11 autres personnes, peut-être, qui auraient cru. Et au passage, ne pas choisir Judas qui l'a trahi. Eh bien non, le Seigneur a pris ces 11 apôtres. Pourquoi? Eh bien, c'est pour nous rappeler que les apôtres ne sont pas des supermans. C'est des gens comme nous. C'est des gens qui ont eu des doutes comme nous. C'est des gens qui, parfois, étaient désespérés comme nous. Mais c'est des gens qui ont toujours voulu suivre Jésus, qui se sont toujours relevés de leur chute, qui ont toujours recommencé à marcher. Et c'est pour ça que, alors même qu'ils doutent, et encore le plus dingue dans l'évangile de Marc, c'est ça, c'est alors même qu'ils doutent, on ne dit même pas qu'ils ont réussi à croire, Jésus leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Donc alors que leur foi est faible, alors qu'ils sont encore incapables de reconnaître pleinement que Jésus est ressuscité, Jésus les envoie déjà dans le monde évangéliser. Et on sait qu'ils vont évangéliser avec un certain succès, puisqu'ils vont constituer de nombreuses communautés chrétiennes autour du bassin méditerranéen, et puis que cette communauté chrétienne va progressivement grandir pour devenir l'Église qui aujourd'hui remplit toute la terre. Mais si Jésus les envoie évangéliser alors que leur foi est faible, eh bien c'est parce que durant cette évangélisation, ils vont encore voir que Jésus est ressuscité et leur force va grandir. Au fur et à mesure où ils vont évangéliser, leur force va grandir. Comment leur force va grandir? Eh bien c'est qu'en évangélisant, ils prieront pour la guérison des personnes et ils verront que les personnes guérissent. Ils verront que le Christ agit avec eux. Donc là, ils vont faire l'expérience concrète dans leur vie que Jésus est ressuscité. Et puis même les souffrances qu'ils vont endurer, parce qu'ils vont être aussi martyrisés, vont les faire grandir dans leur foi en étant obligés de témoigner du Christ dans des conditions difficiles. Parfois même dans le martyre, leur foi va grandir et atteindre une dimension si fortes qu'ils seront vraiment les piliers de l'Église, ces 11 apôtres. Alors tout ça est plein d'enseignements pour nous, parce que vous savez que chaque année on fête la résurrection du Christ, et si on la fête chaque année, c'est qu'il y a une raison. c'est pour faire grandir notre foi dans le Christ mort et ressuscité. Ça veut dire qu'on peut très bien, à un moment donné, avoir fait ce passage qui consiste à croire en Jésus mort et ressuscité. On a peut-être eu une expérience très forte dans notre vie où quelque chose a déclenché en nous cette foi, et pourtant elle n'est pas encore accomplie, elle doit encore cheminer. Et pourtant, parfois, peut-être, elle va s'éteindre ou menacer de s'éteindre. Cette foi, elle n'est jamais accomplie définitivement tant que nous ne sommes pas au ciel. Et donc, nous continuons de cheminer dans la foi d'année en année pour reconnaître de plus en plus que le Christ est ressuscité. Et moi, je constate aussi qu'il y a des gens qui viennent parfois à la messe régulièrement, le dimanche, et qui n'ont pas encore percuté que le Christ est ressuscité. Je le vois à travers les guérisons que parfois certaines de ces personnes obtiennent. Elles sont étonnées que le Seigneur les ait guéris. Pourquoi ? Parfois parce que leur foi était trop abstraite. Elles croient en Dieu, elles récitent le credo le dimanche à la messe, très bien. Tout ça, c'est la pure abstraction, c'est-à-dire que c'est purement conceptuel, c'est dans leur tête, mais ce n'est pas allé jusqu'à leur cœur. Et donc, nous avons tous, quelle que soit notre pratique religieuse, notre foi, que nous connaissons rien à la foi chrétienne, parce que je sais que dans cette assemblée, il y a des gens qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas chrétiens, qu'au contraire, soyons chrétiens depuis toujours, et depuis notre enfance, eh bien, nous avons tous à avancer dans la foi, dans le Christ ressuscité. Et sur ce chemin, je sais que les parcours sont étonnants. Il y a des gens qui vont en quelques jours avancer à une vitesse comme une fusée, puis il y a des gens qui mettront 40 ans à avancer péniblement. Mais peu importe qu'on mette 40 ans à avancer péniblement, qu'on parte comme une fusée en quelques jours dans cette foi, dans la résurrection, ce qui compte, c'est qu'on avance sur ce chemin parce que Jésus est le chemin. Voilà, et donc nous, cette assemblée de prières que nous faisons ou nous prions pour la guérison des malades, elle a d'abord pour but de réaliser, de vérifier que Jésus est ressuscité au milieu de nous à travers son œuvre magnifique qu'il opère dans nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Maintenant, je vais donner quelques témoignages de guérison qui se sont réalisés dans cette prière, des témoignages que je n'ai pas encore donnés. En particulier, j'ai reçu cette lettre de Martine que je vais vous lire. Je suis venu à Paris quelques jours pour voir ma fille. Dans le train, la personne qui m'accompagnait m'a parlé de l'église Saint-Nicolas-des-Champs, où chaque jeudi une prière de guérison pour les malades est dite. Alors, le plus étonnant, le voici. Cette personne est athée. Donc, la personne, elle est athée, elle a témoigné de cette prière. Mais avait accepté de venir avec une amie. Elle m'a dit combien elle avait été touchée par cette prière. Donc, cette personne, elle est athée, en tout cas. Dans ce train, elle se disait encore athée, peut-être qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, mais elle a été touchée par cette prière. Et elle-même, alors que sa foi est à peine naissante, ou peut-être qu'elle ignore même qu'elle a la foi, elle est déjà capable de témoigner à quelqu'un d'autre de cette prière dans un train. C'est étonnant quand même. J'ai tout de suite été interpellé par cette information, et je me suis promis que si je devais faire une seule chose à Paris, ce serait d'assister moi aussi à cette prière. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Catholique mais non pratiquante, j'ai toujours prié avec plus ou moins d'assiduité selon les époques. Je suis atteint d'une maladie génétique dégénérative ankylosante qui touche le système osseux et la peau. La douleur est devenue ma grande compagne. Je suis actuellement sous des traitements très lourds qui me permettent de marcher et qui ont diminué de 30% mes souffrances. Je survis avec mon handicap non visible actuellement puisque je me déplace et j'ai des effets secondaires non négligeables, par exemple hépatite, etc. Le jeudi 25 octobre, ma fille m'a accompagné à l'église. Nous sommes arrivés au dernier moment. Nous ne savions pas qu'il y aurait une telle foule. Toutes les places étaient prises. Je ne peux malheureusement pas tenir la station debout immobile. Ma fille s'est alors adressée à une personne de l'accueil qui a fini par trouver deux places dans la seconde salle. Donc je pense dans la salle du fond là-bas. Je n'entendais pas tout, mais c'est la première fois qu'elle écoute des paroles. Je ressentis une grande bienveillance, dénuée de tout jugement envers les pécheurs que nous sommes. Et les chants étaient si beaux, si porteurs d'amour, que j'étais très ému. Ma main gauche, depuis longtemps, était très enflée, toute rouge au niveau des articulations et me faisait beaucoup souffrir. Ma fille, au passage du Saint-Sacrement, m'a aidé à m'agenouiller. J'ai prié. À la sortie, ma main était moins rouge, moins enflée, moins douloureuse. Je suis resté dans le silence et nous avons marché dans les rues par cette nuit particulière. J'ai attendu un mois avant de vous écrire mon témoignage. Je n'ai plus mal à la main. Le reste de mon corps me fait encore connaître bien des tourments, mais d'avoir été présente à cette prière m'a redonné l'espérance. Voilà, donc elle a eu une guérison partielle de sa main, enfin sa guérison complète de la main, guérison partielle de son corps, et surtout le Seigneur lui a redonné l'espérance. Voilà, mes remerciements pour ceux qui animent cette prière. 900 km me séparent de Paris, mais dès que je pourrai, je reviendrai à la rencontre de Dieu dans cette prière. Martine. Un autre témoignage de Michael. Bonjour, je m'appelle Michael. Je suis père de 3 enfants. J'aimerais rendre grâce au Seigneur. En effet, j'ai assisté à la prière des malades en novembre dernier. Une parole de connaissance a été dite qui précisait que quelqu'un dans l'assemblée était guéri de sa prostate et qu'il sentirait une forte chaleur dans son corps. Ce que j'ai ressenti instantanément, j'ai été guéri de ma prostate. Je souhaite donc remercier le Seigneur pour la merveille qu'il a accomplie sur moi et pour toutes les autres personnes qui ont été guéries ce jour-là. Désormais, je marche encore plus dans la prière et dans les pas du Seigneur. Car sans lui, nous ne sommes rien. Merci pour tout et spécialement toute l'équipe de Saint-Nicolas. Amen. Voilà, donc Michael, il a été guéri de sa prostate, mais aussi sa foi a grandi. Voilà, c'est ça le plus important, c'est que sa foi a grandi. Je m'appelle Guylaine et je viens rendre témoignage d'une guérison. En effet, le jeudi 20 septembre 2018, à la prière des malades, le Seigneur m'a guéri de douleurs d'arthrite et d'arthrose aux deux mains. Suite à une parole de connaissance qui a été donnée à ce sujet, je remercie le Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde. Je vous bénis pour l'exercice de ce don merveilleux que le Seigneur vous a donné. Avec toute ma reconnaissance, soyez bénis, Guylaine. Ça, c'est un témoignage de Françoise que j'ai eu au téléphone, qui était venue témoigner à l'équipe qui écoute les témoignages après la prière. Donc Françoise, à plus de 60 ans, a déménagé de Nice à Paris pour garder sa petite fille. Elle a eu des journées épuisantes et à un moment donné, elle a senti comme des mains qui serraient les muscles de ses jambes et cela a continué jour et nuit. Cela la réveillait même la nuit. Le matin, elle mettait beaucoup de temps après s'être levée pour arriver à marcher. Et tout au long du jour, c'était une souffrance permanente. Monter un escalier était devenu très difficile et très douloureux. Françoise n'est pas allée voir de médecin car elle avait peur qu'il lui annonce quelque chose de très grave. Bon, ce n'est pas forcément la solution. Il fallait politique de l'autruche pour ne pas voir ce qu'on a. Bon, mais elle a fait ça. Par ailleurs, elle aime beaucoup Jésus et va souvent l'adorer. Une amie de Nice lui téléphone pour lui demander de venir prier pour des intentions à la prière de malade de Saint-Nicolas-des-Champs, sans savoir que Françoise était elle-même malade. Donc c'est le Seigneur qui l'envoie à travers cette amie à la prière des malades. Françoise ne connaissait pas du tout cette prière des malades, mais du coup elle est venue prier pour les intentions de cette amie, dont l'une au moins a été exaucée. Mais au bout de quelques semaines, elle a pensé à prier pour elle-même. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais prié pour elle, elle avait toujours prié pour les intentions de son amie. Ce qu'elle ne faisait pas jusque-là. Ce jeudi-là, où elle a enfin pensé à elle-même, après que le Saint-Sacrement soit passé devant elle, Françoise a constaté qu'elle n'avait plus aucune douleur dans les jambes. En sortant de l'église, elle n'arrêtait pas de se dire « c'est pas possible, mais c'est pas possible ». Mais si c'était possible, elle a retrouvé toutes ses jambes d'avant, elle a fondu en larmes, elle a rendu grâce, et elle a terminé en me disant qu'elle avait souffert pendant 3 mois. Donc c'est pendant 3 mois qu'elle a souffert, et 3 mois après, le Seigneur l'a guérie. Voilà, un autre témoignage, plus court. Yasmina grinçait des dents depuis des années sans pouvoir arrêter ce tic, ce problème. Suite à une parole de connaissance annonçant la guérison de problèmes de dents d'une personne, elle a totalement arrêté d'un coup, et elle n'avait pas demandé cette guérison au Seigneur. Donc parfois on ne demande pas des guérisons, et on les obtient quand même. Voilà, et puis une autre grâce différente, Béatrice a reçu lors d'une prière des malades en octobre 2018 une grâce de joie et d'efficacité dans son travail. Elle s'est sentie complètement renouvelée, ses collègues ont constaté qu'elle était complètement changée dans son travail, elle était redevenue heureuse et joyeuse dans son travail. Et Béatrice s'occupe de petits-enfants qui ont été abandonnés. Donc le Seigneur est heureux de ce travail, c'est une belle œuvre d'amour et il voulait que Béatrice ait beaucoup de force pour l'accomplir. Amen. Voilà. Rendons grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles. Et maintenant, nous allons accueillir Jésus parmi nous dans le Saint-Sacrement. Nous savons qu'il est réellement présent au milieu de nous.